Il est très exactement 11h sur Radio Campus Tours. Auditeurs, auditrices, bonjour. Voilà, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Et dans le studio, avec moi, un nouvel invité, c'est Florent Collère. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes déjà venu dans cette émission il y a 2 ans à peu près, et vous étiez venu parler d'une belle journée d'études sur le dialogue avec la nature. Donc, il était question de quoi? Est-ce que vous voulez le rappeler en introduction de cette émission?
C'était l'idée qu'il fallait considérer la nature comme un interlocuteur et un acteur dans les relations. C'est-à-dire que nos rapports ne sont pas à sens unique, mais que la nature agit sur nous et éventuellement nous communique des choses, pas seulement des émotions, mais des messages très directs.
Et alors, Florent Collère, maître de conférence à l'Université de Tours, anthropologue, vous voici de retour dans la Méridienne, cette fois-ci pour nous parler d'un ouvrage que vous publiez chez Armand Collin, donc c'est Les sociétés animales, un regard sociologique. Alors, comment cet ouvrage arrive dans votre parcours de chercheur?
Oh, ça fait plus de 20 ans que je pense à cet ouvrage. Ça fait 15 ans que j'appartiens à un think tank avec Éric Baratet, Michel Kreutzer et d'autres, dans lequel on réfléchit aux moyens d'appliquer les sciences humaines et sociales aux sociétés animales. Éric Baratet, ça passe par l'histoire, les archives. Et moi, depuis très longtemps, je tournais un peu autour du pot, c'est-à-dire qu'il y a déjà tellement à faire pour contredire toutes les âneries qu'on dit, enfin ce que Derrida appelle les bêtises, sur les animaux, que j'avais consacré un premier bouquin à expliquer l'inanité de beaucoup d'expériences éthologiques en laboratoire. Et puis à un moment, à force de travailler et de réfléchir, je me suis dit, bon, je vais réunir tout ce que je peux et je vais franchir un pas, c'est-à-dire je vais passer de l'autre côté du miroir et je vais tenir pour acquis que les sociétés animales sont d'abord des sociétés, que donc la sociologie est propre à les appréhender.
Bon, alors je ne résiste pas à vous demander, c'est quoi ces bêtises que l'on entend trop?
Eh bien, il suffit de lire des livres complètement hors sol. Je me souviens que celui qui m'avait le plus frappé, c'était celui de Luc Ferry, Le Nouvel Ordre écologique, qui disait, alors c'est remonte à 92, hein, mais il y en a encore qui disent la même chose, ça n'a pas changé. Il disait des choses du genre jusqu'à Nouvel Ordre, on n'a jamais observé la moindre transmission culturelle chez les animaux. Alors qu'en 92 quand même on avait fait des progrès là-dedans, et aujourd'hui encore il y a des bouquins qui disent seul l'homme est digne de respect, la nature est muette, y a-t-il d'autres intelligences dans l'univers, comme si déjà nous on était intelligents. C'est un point de départ assez présomptueux. Donc voilà, en fait, ma réflexion a basculé lorsque j'ai passé 4 mois dans un troupeau de vaches. J'ai pris cette décision de manière un peu impulsive, mais je n'ai jamais regretté de l'avoir fait, parce que ça a complètement changé ma perception de ce que pouvait être l'observation. Vous savez, en anthropologie, on pratique ce qu'on appelle l'observation participante. C'est-à-dire qu'on ne passe pas son temps à discuter. On observe, on reste au milieu des gens, parfois on ne dit rien. D'autres fois on est dans sa chambrette à prendre des notes sur ce qu'on a vu ou entendu dans la journée. Et ben, finalement observer des vaches, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire il y a des moments purement contemplatifs, d'autres moments où on s'ennuie, mais tout anthropologue vous dira qu'on peut s'ennuyer copieusement sur un terrain. Et à l'arrivée, ben, le matériau que j'ai emmagasiné, finalement je m'aperçois qu'il a commencé à prendre sens des années plus tard, en lisant notamment Diane Fossé, Gorille dans la brume.
D'ailleurs, cette rencontre avec les vaches, donc rencontre fondatrice, hein, comme vous le dites là, on trouve un chapitre, je crois, qui est consacré dans cet ouvrage, Les sociétés animales, donc, que vous publiez chez Armand Collin. Voilà, donc c'est, je crois, le chapitre 4, cas d'étude, Blonde d'Aquitaine, une société transitoire. C'est ça?
Oui, malheureusement transitoire, parce que toutes ces vaches sont passées à l'abattoir. quelques mois ou quelques années plus tard, quoique elles ont obtenu un sursis parce que les éleveurs s'intéressaient beaucoup à ce que je faisais et à mes photos. Mais bon, c'est un terrain assez tragique, c'est-à-dire un anthropologue en général n'étudie pas des gens qui sont condamnés à être trucidés dans les mois qui viennent.
Bon, je lis un extrait donc de ce chapitre 4. Pierre Verger, qui demeura près de 40 ans à Abaya, disait que les questions posées par les anthropologues étaient souvent inadéquates. Selon lui, on ne devait pas à tout prix chercher à comprendre les gens, mais vivre avec eux, faire les mêmes choses qu'eux et participer à la vie quotidienne. C'est cette dimension non-verbale de l'anthropologie qui inspire ma démarche. Là, ça résume peut-être ce que vous avez fait dans ce troupeau, puisque de fait, vous êtes installé vraiment au milieu des vaches et vous le racontez, voilà, qu'elles réagissent vraiment à votre présence.
Elles réagissent, oui, pas de la même manière. D'ailleurs, j'ai failli mourir quand même. Mais au bout de 4 mois, on tisse des liens qui sont assez forts, en fait. Et puis, il y a le côté réitéré de les revoir tous les jours, de les voir évoluer. Et puis, elles-mêmes, étant réunies au mois d'avril de manière un peu aléatoire par l'éleveur, elles ont aussi construit leur lien social. Et donc, comme j'étais là, j'ai un peu participé à cette construction de l'harmonie du groupe. Parce que c'est ça que j'observe, en fait. Au départ, l'éleveur prend 16 vaches de manière aléatoire. Il prend 2 vieilles, 2 jeunes et 10 entre deux âges pour équilibrer à peu près les caractères. Et donc, ces vaches-là se connaissent peut-être de vue, mais il faut qu'elles établissent une manière d'être ensemble, qu'elles établissent leur propre normalité sociale. Et très souvent, on s'arrête au bout de 8 jours, au moment où il y en a une qui donne un coup de corne à l'autre. Alors, on écrit « Ah, machine domine bidule », 7737 domine 7430. Et puis après, tu vois que au bout de 15 jours, c'est plus du tout ça. C'est plus du tout ça. Des liens se créent, des amitiés. Et les vaches poursuivent un objectif, c'est d'être contentes. Comme nous. Donc tout ce qu'elles veulent, c'est que qu'il soit agréable de vivre dans ce troupeau. C'est la recherche du contentement qui est un de mes principes fondateurs de toute société.
Ça veut dire que vous avez appliqué à ce troupeau de vaches les méthodes que vous utilisiez auparavant avec d'autres sociétés?
Oui, et que j'ai réutilisé après.
Pour des sociétés autres?
Humaines, oui. J'ai étudié 2 communautés de population marronne en Amazonie, 2 communautés rurales en France. J'ai passé environ 7 ans par intermittence chez les Indiens Patachos de Bahia, 3 ans chez les Indiens Galibi de l'Oyapock. Donc j'ai pas mal bourlingué en tant qu'anthropologue. Alors là, c'était plutôt dans les projets de recherche ayant des finalités, mais je sentais bien qu'il y avait quelque chose, une vérité qui m'échappait dans mes rapports avec ces populations. Il y avait quelque chose qui m'échappait. Et à la fin, je cite Freud qui dit « Si on arrête de s'interroger sur la finalité de la vie humaine et qu'on pense concrètement à ce que les gens attendent de la vie, eh bien, ils attendent une chose, c'est d'être heureux. » Et je crois que ça résume assez bien l'objectif de toute société animale constituée.
Et donc, toutes ces sociétés autres que vous avez pu étudier, observer, peut-être certaines ont un rapport différent à l'animal que la nôtre.
Oui. Tout au moins sur le plan intellectuel. L'idée, on en parle beaucoup, Descola en a beaucoup parlé, Viveiros de Castro, Bruno Latour, enfin bon, il y a toute une génération d'anthropologues et de philosophes qui, dès les années 2000, ont remis en question ce qu'on appelle le naturalisme, c'est-à-dire l'opposition radicale entre nature et culture. Donc l'idée, c'est que notamment parmi les sociétés dites animistes, les humains sont en relation sociale avec les entités du monde naturel. C'est pour ça que quasiment tous les ethnonymes indigènes sont nous les vrais gens. Non pas les vrais gens parce que d'autres gens ne seraient pas des vrais gens, mais nous les vrais gens par rapport aux sociétés de Pécari, de Jaguar. Mais ils sont en relation avec eux. Bon, après, dans le traitement quotidien, ça ne les empêche pas de martyriser un Pécari, Et puis il y a quand même cette notion animique, elle est quand même assez ancrée en fond de nous. on sait très bien, on sait pertinemment que, en fait, on est en relation sociale avec notre chien ou notre chat. Donc, simplement, on n'ose pas l'avouer, c'est tout.
Alors, si j'insiste sur ces autres sociétés, c'est parce qu'il me semble qu'il y a un groupe que vous évoquez aussi, d'ailleurs, dans ce chapitre 4, c'est les éleveurs. Enfin, ceux qui, voilà, dont c'est le métier, en fait, d'accompagner ces troupeaux. Et eux sont tout à fait d'accord, enfin, si je peux dire, avec vous, sur cette idée que leurs vaches sont toutes différentes, qu'elles ont toutes un caractère, qu'il y en a des plus ou moins fines.
Ils sont d'accord, mais très réticents.
C'est-à-dire ?
Parce qu'à l'arrivée, ils doivent les envoyer à l'abattoir.
Oui.
Donc, ils m'ont expliqué que c'était par principe qu'ils évitaient de créer des liens, qu'ils l'avaient fait en début de... quand ils étaient jeunes, et que ça avait été une douleur, donc... Mais je les ai un peu décomplexés à ce sujet, c'est-à-dire qu'on est quand même passé à des discussions beaucoup plus de type émotionnel concernant les vaches, concernant leur propre expérience. Ils m'ont raconté des choses qu'ils ne m'auraient jamais raconté autrement, c'est-à-dire des comportements qui montrent que les vaches sont quasiment télépathes. Enfin, ça, on le retrouve chez beaucoup d'éleveurs, hein. Que la vache comprend que si l'éleveur évite de la regarder, cela veut dire que l'éleveur a quelque chose à cacher, et donc, même s'il appelle tout le troupeau, cette vache, cette seule et unique vache, restera en arrière et ne viendra pas rejoindre l'éleveur. Ça, j'ai observé moi-même.
Voilà, donc ça, comment dire, même s'ils évitent l'attachement, ils ont bien conscience de la façon d'être au monde de ces animaux, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les humains.
Oui, bien sûr. Et puis, pour en revenir à leur rapport avec les vaches, je crois que je fais observer que, en fait, quand ils décident d'en envoyer une à l'abattoir, bon, c'est pas une usine à viande, hein. Ils en vendent 3-4 par an sur 170. Mais dès lors qu'ils ont décidé d'en envoyer une à l'abattoir, parce que c'est une mauvaise mère, parce qu'elle a fait deux césariennes, etc., ils la désignent par le neutre. Ça va partir bientôt, alors qu'autrement, ils disent elle.
Vous leur avez donné des noms, vous, à ces vaches, d'ailleurs.
Ben oui, c'est impossible de travailler quand écrit 7396 fait ceci. Il faut bien qu'on entre dans une certaine continuité des actions et se rendre compte qu'on a affaire à des personnalités. Et bon, sauf si vous avez une super mémoire des chiffres, c'est très compliqué de faire le lien entre la note que vous avez prise sur 7396 le deuxième jour et l'autre note que vous avez prise le 15e jour, disons. Donc c'était impossible. Tous les éthologues de terrain ont fini par donner des noms. Parce que tu ne peux pas accompagner une dynamique sociale. C'est comme si vos élèves à l'école étaient numérotés et pas nommés.
Peut-être qu'il y a des gens à qui ça ne déplairait pas, mais c'est un autre débat. Pourtant, les taureaux, eux, sont nommés. Il y a le taureau basilic.
Oui, parce qu'il n'y en a qu'une dizaine sur l'exploitation. Et les taureaux... En fait, toutes les vaches sont nommées. Vous savez, c'est le... Comment ça s'appelle? Le pédigré. Donc, elles sont enregistrées dans une base nationale. Et théoriquement, elles reçoivent l'année 2003 des prénoms en commençant par eux, etc., etc. Et les taureaux, eux, sont assez clairement identifiés, individualisés. Les éleveurs connaissent leur caractère, ils savent avec quelle vache il ne faut pas les mettre, ils connaissent leurs humeurs. Bon, c'est un cas particulier, les taureaux.
Cela dit, pour en revenir à la peine qu'ont les éleveurs quand ils s'attachent trop à leurs animaux, alors peut-être que le parallèle fera bondir derrière le poste, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça me fait penser aussi au rapport que certains soignants peuvent avoir avec leurs patients. Quand ils expliquent, bah oui, il ne faut pas trop s'attacher aux patients parce que quand ils partent ou s'ils décèdent, ma foi, on en souffre en tant que soignant.
J'ai observé ça chez les chirurgiens. Une profondeur, enfin, j'ai pas beaucoup fréquenté de chirurgiens, mais mon oncle est chirurgien par exemple, et il est absolument glacial. Alors évidemment, quand tu arrives à passer ce bloc de glace, c'est évidemment un oncle aimant et affectueux, mais l'autre jour, il y a quelques mois, je me suis fait sauter le tendon du pouce, donc j'ai eu une greffe, et j'ai pas eu envie de remercier le chirurgien tellement il avait été odieux.
Non, moi, je parle bon, des soignants, peut-être plutôt des infirmiers ou des aides-soignants.
Oui, non, mais j'ai bien compris. Mais en effet, on pose une distance. Et les chirurgiens sont parmi les professions les moins aimables qui soient.
Alors, si certains nous entendent et souhaitent revenir dans une émission pour nous dire que c'est faux ou que c'est totalement vrai, n'hésitez pas. Hein. Vous êtes.
Je vous promets que je vais faire une étude anthropologique poussée pour voir si je viens de dire une bêtise ou pas.
Bon, bah, vous reviendrez pour en parler alors dans une prochaine méridienne. Et alors, je poursuis quand même sur ce chapitre des vaches. Il y a aussi votre œuvre est enrichie de schémas et de photos. Donc comme ça, on peut les voir, ces fameuses vaches. Et puis, on découvre aussi que si on ne le sait pas déjà, que la vache a un champ de vision particulier. Voilà, donc il y a aussi une façon de voir totalement particulière sur la décomposition du mouvement. Donc ça, c'est aussi des choses qui, moi, m'ont intéressée. Et donc, je me demande, quand on est anthropologue, c'est-à-dire qu'on doit aussi maîtriser plein d'autres domaines sur tout ce qui est la vision ou des choses comme ça.
C'est la méthode prônée, c'est-à-dire, vous voyez, la première partie, c'est simple, c'est inspiré des règles de la méthode sociologique de Durkheim. On pose un cadre, on pose des concepts, une méthode, et quelles données on recherche. Le cadre, c'est des concepts sociologiques, mais une forme d'appréhension des sociétés animales que différents spécialistes appellent l'anthropomorphisme critique. Et cet anthropomorphisme critique repose sur la connaissance du monde perçu, du monde tel qu'il est perçu par l'animal. Une chauve-souris évolue dans un milieu où elle peut croiser un papillon de nuit dont elle fera sa proie. Mais les organes sensoriels de la chauve-souris et du papillon sont tellement différents qu'en réalité, ils n'évoluent pas dans le même milieu. Et il faut comprendre cela pour commencer à étudier un animal. Il faut, comme disait Burghardt ou Timberlake, il ne suffit pas de mettre les chaussures de l'animal, il faut aussi marcher avec. Et c'est à partir de là, une fois ce savoir acquis, la connaissance de l'écologie de l'espèce, de son histoire évolutive, qu'on peut commencer à observer et comprendre et intégrer à partir de cette vision partagée de l'environnement qu'on a essayé de se constituer.
Alors, est-ce que les journalistes, se formeraient avec profit à l'anthropologie ?
Ah, c'est une bonne question. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, je ne pense pas. Alors, je pose des questions.
Vous êtes comme le commissaire Maigret.
Tout à fait.
D'accord. L'anthropologie, c'est quoi ? C'est la capacité à se décentrer. C'est-à-dire à se placer dans une situation et puis adopter ce que Lévi-Strauss appelle le regard éloigné. Tout anthropologue plongé dans un milieu doit à la fois être effectivement en immersion et en même temps avoir pour point de repère de ses observations son propre cadre de représentation. Et c'est à partir de cela qu'il peut mettre en évidence des différences. Et cela passe par l'observation, et l'observation, c'est du boulot, ça s'acquiert. Il faut savoir observer. Voilà. Quand je suis dans une soirée, j'arrive assez facilement à déterminer les petits pôles d'hostilité aux quatre coins de la pièce, et ce genre de choses. Il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre, lorsqu'ils nous parlent, qu'ils nous ennuient. Qui n'arrêtent pas de parler, par exemple, ce que je fais en ce moment.
Ah, j'ai peur, je croyais que vous parliez de moi.
Et donc, cette incapacité à manifester de l'empathie pour l'interlocuteur est souvent le principal obstacle à l'observation et au développement des facultés d'observation.
Donc, en conclusion, c'est bénéfique à tout le monde, alors, d'étudier l'anthropologie.
Oui, surtout si on admet qu'on peut également l'appliquer à des choucas ou à des gorilles ou à des éléphants.
C'est assez évident, aujourd'hui, en 2025, de s'intéresser aux sociétés animales. Pour autant, à l'époque où vous avez fait ce terrain sur les vaches, qui différait de vos sujets d'études habituels, est-ce que ça a été reçu aussi aisément ?
Alors, Il y a un caractère moutonnier à l'université, c'est-à-dire que depuis une dizaine d'années, il y a plein de manifestations autour de... Là, je parle de la France. Hein. Plein d'écrits sur les animaux qui sont souvent l'œuvre de philosophes, mais qui restent hors sol. Quand je suis allé voir les vaches, c'était parce que j'en avais assez de parler hors sol. Vous savez, j'ai commencé par la littérature. À un moment, on a assez de parler et d'analyser des personnages qui n'existent même pas. Donc, je suis passé par l'anthropologie pour être plongé... dans quelque chose de vivant, et je ne pouvais plus parler des animaux sans être confronté à eux. Enfin bon, je connaissais les chats, les chiens et les chèvres, je les avais observés dans mon enfance. Mais à un moment, il faut se constituer un savoir concret, on ne peut pas toujours parler dans le vide. Donc ce n'est pas du tout un ouvrage philosophique, il n'y a pas du tout de Aristote ou de Malebranche dans l'histoire. Si je cite un peu Malebranche, mais... pour montrer que les bêtises peuvent remonter très longtemps en arrière.
Mais, pardon si j'insiste, hein, mais est-ce que vos collègues de l'époque ont pu être surpris ?
Alors, la première réaction a été plus ou moins de dire que j'avais brisé ma carrière. Et récemment encore, j'ai été candidat à un poste de professeur d'anthropologie. Et justement sur la base... de cet ouvrage qui allait paraître et sur la proposition de créer des études animales en France, parce qu'encore une fois, c'est la France le problème. Et on m'a dit, mais monsieur, c'est pas de l'anthropologie. Quand vous étudiez un peuple, vous commencez par apprendre son langage. Vous êtes la honte de la profession, en gros. Et c'est pour ça que dans ce livre, je consacre un long chapitre à expliquer tout ce qui... dans notre langage à nous, ou notre absence de langage, est observable. C'est-à-dire le langage parfaitement vide qu'on échange dans un ascenseur, le langage qu'on adresse à un bébé, voilà, plein de... Et parfois, on emploie... Je crois que je vous avais déjà raconté l'anecdote la dernière fois, je ne vais pas la répéter. Mais par exemple, quand dans le discours de séduction, on peut aussi bien parler du chômage que... de la guerre en Ukraine, si la personne est déjà séduite en face de vous, eh bien, il y aura relation. C'est pas... En revanche, si vous n'aimez pas, vous pouvez toujours parler de Goethe et citer Baudelaire, il ne se passera rien.
Je vous propose d'écouter Chassol. Voilà, c'est un artiste qui utilise aussi des chants d'oiseaux dans ses œuvres. Et on se retrouve tout de suite après dans cette méridienne. Voilà, je suis avec Florent Collère et nous parlons de votre ouvrage « Les sociétés animales, un regard sociologique » qui sort chez Armand Collin. A tout de suite sur le 99.5 FM. Thank you. et c'était Chassol sur Radio Campus Tours. Alors mon invité, Florent Colère, penchait justement sur ces oiseaux qu'on entendait dans cette, dans cette œuvre musicale. À votre avis, c'est quoi ?
Là, je vais me couvrir de ridicule. Je crois que ce sont des hirondelles rustiques, mais je ne suis pas sûr.
Bon, eh bien, auditeurs, auditrices, voilà, peut-être que la LPO nous entend. N'hésitez pas à vous manifester aussi, hein, si vous souhaitez abonder ou pas ce témoignage autour des hirondelles rustiques. Alors, pour l'heure, parlons un peu de littérature. Voilà, je vais dire Tolstoï. Qu'est-ce que ça vous évoque, Florent Colère ?
Le premier sociologue.
Ah.
Le premier sociologue, parce que Tolstoï écrit à partir des années 1850, voire avant, et à une époque où on exalte le génie individuel, les âmes tourmentées, les René, les Julien Sorel et autres. Et Tolstoï est le premier à dire « tout cela n'est rien, les individualités ne sont rien face aux élans collectifs ». Et dans « Guerre et paix », il met en scène justement cette... il met en vis-à-vis le prestige de Napoléon envahissant la Russie, portant son armée par sa réputation et sa réputation d'invincibilité. Et il a face à lui toute l'armée du tsar et notamment toute l'aristocratie occupant des fonctions d'officier supérieur qui ne rêve que d'une chose, c'est d'en découdre. Et un chef d'état-major qui est le général Kutuzov qui refuse de s'engager dans une bataille décisive. Et le tsar lui demande pourquoi, insistant lourdement. C'est à la veille de la bataille de la Moscova. Et Kutuzov lui dit, vous savez, Majesté, les batailles, elles sont perdues non pas sur le champ de bataille, mais la veille au soir. Et pour savoir si une bataille sera gagnée ou perdue, il faut se promener dans le campement et vérifier l'état d'esprit de la troupe qui va mener le combat le lendemain. Et c'est pour moi une réflexion anthropologique profonde que de comprendre que les individus sont des êtres biologiques, mais ils sont des véhicules de représentation et de dynamiques émotionnelles qui ne peuvent être appréhendés par la simple psychologie. Heureusement, 20 ans plus tard, apparaissait la sociologie sous la plume de Durkheim avec ses règles de la méthode sociologique, son étude sur le suicide, surtout les fondements de la vie religieuse qui est une bible pour les sociologues et anthropologues. Donc voilà pourquoi j'aime Tolstoï et que je le cite, je crois, deux fois au long du livre. Trois fois.
Et alors, c'est cette idée que les vivants sont des véhicules d'émotions et de représentations, comment on le traduit, disons, pour les animaux ?
Eh bien, en faisant la distinction entre reproduction individuelle et reproduction sociale. C'est-à-dire qu'une société perdure, alors même que les individus qui la composent sont périssables. Et comment fait-elle pour perdurer ? Tout simplement parce qu'il y a des éléments de continuité. Ces éléments, ça peut être des savoirs, mais c'est surtout des pratiques, des représentations. Ça peut être des techniques de chasse. Ça peut être la circulation des mâles ou des femelles arrivées à la puberté, c'est-à-dire l'évitement de l'inceste. Hein. Pareil, j'ai observé en Amazonie ça, des groupes de colons, dont j'observais qu'en alternance, c'était les gendres qui restaient auprès du beau-père, ou en revanche, à l'opposé, c'était les fils qui restaient près de leur père, en fonction de contraintes, de hasard et de nécessité liées à ouvrir un champ en pleine forêt primaire, c'est pas évident. Tuer et écorcher des caïmans pour vendre leur peau, il y a besoin d'une masse critique de force de travail. Et donc, il y a une part d'aléatoire. Par exemple, chez les babouins olives, ce sont les mâles qui circulent. Chez les babouins à madrias, ce sont les femelles qui circulent. Chez les chimpanzés, c'est les femelles qui circulent. Et chez les bonobos, ce sont les mâles qui circulent. Et chez nous, selon les groupes humains, c'est pareil. Ce seront plutôt les femmes qui vont circuler au sens où vont résider chez leurs beaux-parents. Ou à l'inverse, c'est le gendre qui va résider chez ses beaux-parents. Donc ce sont des choses qui perdurent, qui sont établies par la tradition, et la tradition repose sur une part de hasard et une part de nécessité. qui est ce qu'on appelle une construction sociale, c'est-à-dire notamment le respect des règles sociales et l'évitement de l'inceste.
Et est-ce qu'on peut dire dans ces principes fondamentaux, donc proscription de l'inceste, la recherche du bonheur, en tout cas du plaisir, l'hédonisme, vous l'avez dit tout à l'heure, et peut-être est-ce qu'il y a une différence entre les individus mâles et femelles ?
Alors, je pose comme principe, outre l'évitement de l'inceste et la recherche du contentement, la binarité mâle-femelle. Alors, évidemment, ça tombe assez mal dans le contexte actuel parce que ce que je voulais dire, en fait, c'est qu'il existe des mécanismes de régulation sociale, précisément parce que les règles perdurent aux individus, donc des mécanismes d'application et de respect de ces règles. Et ces mécanismes sont le fait tantôt du groupe comme collectivité, mais le plus souvent, c'est le fait des individus les plus âgés. Et cela peut être particulièrement le fait des mâles ou des femelles. Ça peut être les femelles, par exemple, chez les éléphants, c'est les femelles qui assurent la continuité mémorielle. Chez les gorilles, en revanche, ce sont les mâles, les dogris, les fameux dogris. Mais une chose très intéressante, c'est que ces rôles peuvent être genrés. C'est-à-dire que j'observe dans un chapitre sur la préséance le fait que le coq, lorsqu'il veut réunir ses poules, dans sa gestuelle et dans sa vocalisation, imite le cri de la mère poule appelant ses poussins. Et dès lors, au lieu que ce soit des poussins qui se précipitent vers lui, ce sont les poules. C'est-à-dire qu'il leur fait croire qu'il a... Bon, parfois, il a vraiment trouvé quelque chose à manger. Mais parfois, ce n'est pas vrai, il veut juste les réunir. Donc, un exemple type de coq qui adopte une attitude genrée, non pas pour réunir des poussins, mais pour réunir ses femelles. Un autre exemple intéressant, c'est le cas d'une poule que j'ai observée donc dans un poulailler où il n'y avait pas de coq. Eh bien, cette poule s'est mise à chanter Cocorico tous les matins. En l'absence de coq, elle a tout simplement assumé le rôle de coq. Donc les rôles ne sont pas forcément sexuels, ils peuvent être genrés. Bon, j'ai plein d'autres exemples, hein, mais je cite ces deux-là, les poules je connais bien. Il y a des exemples chez les gorilles, chez les chimpanzés. Bon, le problème c'est qu'est-ce qu'on observe ? Qu'est-ce qui vient sous nos yeux ? Moi, je refuse de séparer des poules et de leur envoyer des estrogènes ou des... c'est quoi l'hormone masculine ? La testostérone, pour vérifier si elles vont changer de rôle. Donc évidemment, toutes ces observations sont ponctuelles et liées à la chance qu'on a d'avoir regardé au bon moment. Voilà ce qui sort. Enfin voilà, au moins ça, j'ai observé moi-même. Le coq et la poule, ça c'est... voilà, c'est mon observation.
Et alors, vous nous avez fait une sélection d'écoute, donc on va en profiter. Voilà, on va faire écouter quelques sons à nos auditeurs et vous pourrez nous dire de quoi il s'agit et pourquoi vous avez proposé ces sons-là. Allez, je mets un deuxième court extrait et notre invité pourra nous en dire quelques mots ensuite.
Thank you.
Florent Collère, qu'est-ce que vous avez voulu nous faire écouter?
Alors le premier, ce sont des gibbons à dos gris, je crois, qui vivent en Asie du Sud-Est. Les gibbons sont une société parfaitement égalitaire. Pour le coup, la binarité mâle-femelle, ça ne marche pas trop chez les gibbons. Et vous n'avez passé en fait que le début, hein, il n'y a pas le moment de la reprise en chœur de ces sifflements. C'est difficile à croire que ce sont des gibbons d'ailleurs. Quant au deuxième, c'est vraiment ma Madeleine de Proust, c'est des singes hurleurs. Et très souvent, quand on cherche des sons de singes hurleurs, des chants de singes hurleurs sur Internet, bah, c'est des sons pris dans la journée, alors que le singe hurleur, le groupe, chante à 5 heures du matin. Alors c'est une émotion partagée parce que en Amazonie, 5 heures du matin, c'est quasiment le seul moment où on peut dormir sans être complètement poisseux et crevant de chaud. Et le chant du singe hurleur, c'est le moment où on se dit « Ah zut, il va falloir se lever ». Et en même temps, je me souviens parfaitement d'un matin où j'avais l'impression d'être en train d'écouter le chœur des esclaves de Nabucco. C'était d'une beauté extraordinaire que je n'ai pas retrouvée dans les enregistrements disponibles sur YouTube, malheureusement. Voilà, c'est magnifique. Mais tous les chants ne se valent pas. Je veux dire, un jour, ça peut être magnifique. Le lendemain, bof. Hein, ça dépend de la forme des chanteurs, je pense.
Est-ce que vous conservez des archives sonores? Alors, est-ce que vous avez fait des archives sonores de vos différents terrains?
Non, mais ce qui est amusant, c'est que... Je réponds complètement à côté.
Mais c'est pas grave.
Très souvent, quand on fait nos entretiens en Amazonie, il y a toujours un poussin qui traîne à côté. Et quand on réécoute l'enregistrement, en fait, je ne sais pas ce qu'il y a dans le cri du poussin, mais ça couvre les voix, alors qu'au départ, on croit qu'il est à quelques distances et que ça passera très bien.
Est-ce que ça arrive aussi quand, disons, vous voulez enregistrer un entretien et qu'il y a, manque de chance, un tiers qui est dans le fond et qui se met à raconter sa vie ou je ne sais quoi, et vous ne l'entendez pas au moment où vous enregistrez, et ça couvre en fait là.
Alors, dans la formation d'anthropologue, il y a le travail de la mémoire. C'est-à-dire que si j'entends quelqu'un tenir des propos plus intéressants un peu plus tard, je maintiens mon petit magnétophone orienté vers la personne qui parle, mais mon oreille se tourne en réalité vers l'autre personne qui parle. Et à partir de là, on a un travail mnémotechnique, hein, on a des méthodes mnémotechniques qui permettent de reconstituer des conversations de 2-3 heures après les avoir entendues, sans les enregistrer et sans noter. Donc les anthropologues ont une super mémoire.
Alors justement, puisque vous nous avez fait écouter des singes, là j'ai envie de citer Jane Goodall. Qu'est-ce que vous aimeriez dire d'elle, que vous citez aussi dans votre livre?
Jane Goodall, elle fait partie du panthéon des chercheurs quasiment tous américains. Bon, Schaller, il est allemand. Schaller, c'est le... Len Howard, qui était anglaise, c'est la précurseur absolue. Vient ensuite Schaller, sur les gorilles, les tigres et les lions, Diane Fossey et Jane Goodall. Jane Goodall, elle était anthropologue. Hein. Vous savez qu'on lui a refusé des articles parce qu'elle donnait des prénoms aux chimpanzés. Donc, toute leur production scientifique est une production désincarnée. Sinon, les revues ne les acceptent pas. Bon, évidemment, c'est des revues scientifiques. Or, vous connaissez en France la collection Terre humaine? Ben, celle où a publié, dont le premier ouvrage a été celui de Lévi-Strauss, Triste Tropique. Ensuite, il y a eu Le Cheval d'Orgueil, il y a eu Clastre, Les Indiens Guayaki, et puis Descola avec Les Lances du Crépuscule. C'est en fait des livres qui sont à mi-chemin du scientifique et du biographique, où l'anthropologue raconte son terrain sur le long terme, donc avec une forte part de subjectivité. Or, cette tradition littéraire existe aux États-Unis. Mais de la part de Jane Goodall, Diane Fossey, des gens qui ont consacré 40 ans aux gorilles, aux babouins, aux chimpanzés, aux éléphants. Donc une mémoire accumulée, des observations accumulées, qui sont à la fois le fait de scientifiques, faisant la part des choses entre l'accidentel, le ponctuel et le régulier, et en même temps passionnant à lire. Je repose beaucoup sur ces auteurs. pour justement pour réinterpréter certaines scènes qu'elles décrivent ou qu'ils décrivent, les réinterpréter ou tout simplement les exposer, puisqu'elles sont tellement claires en soi que ça va dans mon sens.
Est-ce là aussi une chercheuse, disons, qui a vécu avec ces sociétés de chimpanzés ?
Goudal ? Oui, je vous fais observer d'ailleurs que les anthropologues passent en général 3 ans sur le terrain, et bizarrement, les anthropologues qui étudient les chimpanzés passent 20-30 ans sur le terrain. Donc ça doit vouloir dire quelque chose.
Ah, peut-être que la réponse est dans ses écrits alors ?
Peut-être que finalement, observer une société animale, c'est en fin de compte plus intéressant.
Comment on étudie d'ailleurs ce que vous évoquiez tout à l'heure, les études animales qui n'existent pas ou qui ont peine à exister en France ? Du coup, quels cursus peuvent exister aux États-Unis, par exemple ?
Aux États-Unis, il y a ce que je vous expliquais, en fait, toute la part émotionnelle investie par les chercheurs dans leurs observations, Franz Deval, Marc Bekoff, qui sont très fameux et publiés, eh bien, ils ont mis leurs intuitions, leurs observations et leurs liens émotionnels avec leur sujet d'étude dans des livres qui sont plutôt des livres de vulgarisation. Pour le reste, ils ont fait une carrière scientifique, sauf que en France, on a quand même une grosse tradition d'éthologie de laboratoire, c'est-à-dire éthologie comportementale qui consiste à envoyer des chocs électriques ou éthologie cognitive qui consiste à faire compter des cubes et des cônes de malheureux perroquets enfermés toute leur vie. Donc c'est un peu limité comme savoir que l'on peut retirer. Vous voyez, si on pousse par le biais d'expériences extraordinaires, un perroquet a compté jusqu'à 15, alors que le perroquet a d'autres choses à enseigner aux humains. La réaction du chercheur, une fois que le perroquet a réussi à compter jusqu'à 15, un, c'est de publier, deux, de créer une expérience dans laquelle on apprendra au perroquet à compter jusqu'à 16, et ainsi de suite, jusqu'à 17 et tout ce que vous voulez. Donc finalement, on ne va pas très loin à l'arrivée. C'est-à-dire, si je vous apprends à compter jusqu'à 15 et ensuite jusqu'à 16, déjà, je suis sûr que vous y arriverez.
Merci.
Et d'autre part, je n'en saurai pas beaucoup plus sur vous.
Je lis donc un extrait de votre ouvrage. Donc c'est précisément pour nos auditeurs dans la partie 3, nature et expression du lien social. Alors, préparez vos oreilles. Certes, une société peut perdurer quelque temps dans la violence et l'anarchie si les individus sont contraints, par exemple dans des jardins zoologiques, ou chez les humains par l'impossibilité de s'exiler. Mais cette situation n'a de sens de société que le nom, car dysfonctionnelle et instable.
Que ça va dans le sens du fait qu'aucune société ne peut perdurer dans ces conditions. Sauf à mettre les gens en prison, évidemment. Donc, une société ne peut supporter qu'une contrainte très limitée que Durkheim appelle la pression normative et qui consiste, sans même se poser de questions, à respecter les règles et les usages. Quand vous allez dîner chez les gens, quelle que soit votre indépendance, refus des conventions, vous n'allez pas parler la bouche pleine, vous êtes d'accord ?
Et
en même temps, vous n'êtes pas là à réfléchir ou est-ce que je dois couper avec la fourchette ou jeter la viande dans l'air et la rattraper avec mes mâchoires Est-ce que je postillonne ? Est-ce que, vous voyez, vous ne vous posez pas cette question-là. Donc ce sont des règles qui sont admises par le groupe. Mais en revanche, si on vous attache les mains derrière le dos, on vous oblige à manger par terre, là, il y a un problème. Voilà. Donc il y a des contraintes qui sont intolérables. Et ces contraintes sont imposées de l'extérieur, le plus souvent, justement, par l'impossibilité qu'on offre à de malheureux chimpanzés de fuir le groupe dans lequel ils sont. Mais il y a un exemple que Diane Fossé donne d'une femelle gorille, elle n'est pas contente, elle finit par prendre son fils sur le dos et elle s'en va.
On se lève et on se casse.
Exactement.
Et d'ailleurs, cet ouvrage devrait être traduit pour les lecteurs anglophones.
C'est mon rêve secret.
Bon.
Je suis en train de prospecter. En fait, j'ai communiqué une traduction par DeepL à ma grande honte. à quelques collègues éthologues et anthropologues pour qui j'ai de l'admiration, que je cite assez souvent, hein, Marcus Bainsbrook sur les hyènes et John Hartigan sur les chevaux, deux anthropologues, et Gordon Burghardt, qui est l'inventeur du concept d'anthropomorphisme critique. Je leur ai écrit, on a discuté, je leur ai montré l'ouvrage. Et ils m'ont indiqué quels éditeurs seraient susceptibles. Ils ont écrit des lettres d'appui pour le faire. Et là, c'est Armand Collin qui va se charger des négociations. Je pense que... J'espère qu'en France, il trouvera son public. Mais je pense que le public anglo-saxon, bon, il en connaît plein des bouquins comme ça. Enfin, je veux dire, ça apporte le regard sociologique. Hein. Mais... aux États-Unis, on n'est pas obligé de réinventer l'eau tiède en disant « Oui, mais Aristote a dit ça, mais on ne va peut-être pas en tenir compte parce qu'on va peut-être passer à autre chose. »
Je vous propose de faire une seconde pause musicale. Allez, on va rester sur les oiseaux, si vous le voulez bien, Florent Collère. On va écouter Hadouk Trio et le bal des oiseaux, tout simplement, dans la Méridienne, 99.5 FM, c'est toujours Radio Campus Tour. À tout de suite. Et oui, bravo, bravo à Doug Trio. Et merci Florent Koller d'être venu jusqu'à notre modeste radio pour nous parler de votre ouvrage Les sociétés animales, un regard sociologique, donc, qui paraît chez Armand Collin. Alors cette émission se profile lentement mais sûrement vers sa fin. Alors je vais vous laisser justement le mot de la fin. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à nos auditeurs et nos auditrices ?
Qu'il va devenir de plus en plus difficile d'observer des sociétés animales étant donné la place qu'on laisse aux vivants. Quand je pense que j'avais 40 nids d'hirondelles chez moi en Vendée il y a 40 ans et qu'aujourd'hui, cette année, pour la première fois, il n'y en a plus. Qu'il n'y a plus de chauves-souris. Que si on veut observer des sangliers, on risque de se prendre un coup de chevrotine. J'ai choisi la sécurité en observant des vaches. Mais finalement, à part des terrains balisés que sont les sociétés de babouins ou les sanctuaires de chimpanzés en Afrique de l'Ouest, malheureusement, il ne restera plus grand-chose à observer d'ici quelques temps. C'est pour ça qu'il est quand même urgent qu'on prenne conscience qu'il y a de la vie autour de nous, qu'il y a de la vie autour de nous, qu'il y a des petits moineaux qui pépillent, qu'il y a des pissenlits qui poussent entre les dalles, qu'il y a des chants d'oiseaux, que les grives musiciennes qui sont décimées, un million de grives musiciennes tuées chaque année par les chasseurs, alors que c'est un oiseau qui chante merveilleusement. Enfin, je ne veux pas donner le bourdon au lecteur, mais j'espère qu'en lisant ce bouquin, certaines personnes auront un électrochoc et se diront « Tiens, ça vaut le coup de reconnaître un moineau mâle d'un moineau femelle, parce qu'au moins, ça veut dire que je sais observer ».
Là, je diffuse pour nos auditeurs une autre proposition sonore que vous avez faite pour cette émission. Ce sont donc des baleines à bosse, peut-être. Des animaux peut-être pour lesquels vous avez un intérêt particulier.
Les baleines à bosse, on chante très bien. Ce qui est intéressant, c'est l'autre des odontocètes, qui sont les cachalots, qui ont exactement la même organisation sociale que les éléphants. C'est bien la preuve que c'est la sélection naturelle qui a produit la vie en société et qui a produit trois types principaux, qui sont les structures familiales, les structures claniques et les structures communautaires. Les structures claniques étant celles où la différence est construite par le groupe lui-même par opposition à d'autres groupes. C'est la théorie de Frédéric Barthes, la construction de frontières, un ethnologue des années 1960.
Et si vous voulez en savoir plus sur ces trois structures, auditeurs, auditrices, eh bien, je vous invite aussi à lire l'ouvrage de Florent Koller, puisque vous y consacrez des chapitres, justement, à ces trois structures.
Oui.
Ouvrage qui se destine aussi aux étudiants et aux étudiantes. On va se quitter en écoutant ces merveilleuses baleines à bosse. Et il me reste à rappeler, auditeurs, auditrices, que cette émission est rediffusée aujourd'hui même à 17h et que vous la retrouverez en podcast sur notre site. Est-ce qu'il y a des endroits sur Internet où on peut suivre vos travaux, Florent Koller ?
Non, pas vraiment. J'avoue que je n'y ai pas pensé.
Pas pour le moment.
Si vous allez sur Google Scholar, généralement, c'est le site destiné aux chercheurs où sont recensés tous les articles scientifiques. Tous mes papiers y sont. Souvent accessibles en PDF. Mais autrement, non, je n'ai même pas de fiche Wikipédia, vous voyez.
Bon bah,
c'est la honte.
C'est le moment d'en faire une alors. En anglais, tant qu'à faire.
Oui.
Allez, bonne journée à toutes et à tous. Et on ne manquera pas de mettre des liens vers vos articles dans le podcast de cette émission.
Merci beaucoup.
Merci à vous.